Ce matin, vous l'avez compris, c'est la thématique que je m'étais proposé d'aborder avec vous dans le cadre de ce culte. Ce matin, il va être question de dépendance et il va en être question d'une manière un petit peu particulière ou différente par rapport à ce que nous avons peut-être l'habitude d'entendre dans notre société. Nous sommes ensemble pour 40-45 minutes. Alors mon objectif n'est pas de me substituer au travail des enseignants, des psychologues et autres psychothérapeutes qui font un excellent travail et qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider nos contemporains à se sortir des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais mon objectif ce matin est plutôt de voir comment est-ce que la foi en Dieu et ce dont il a été question dans cette première partie de ce culte, à savoir que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est bon, un Dieu qui se soucie de nous aussi, qui a son regard posé sur chacun d'entre nous, même si on ne le connaît pas, même si on n'a pas beaucoup d'éléments d'information sur lui. Mon objectif, c'est de voir comment est-ce que la foi en Dieu et comment Dieu, dans ce processus, est capable d'intervenir. Et bien sûr, je ne dirai pas tout sur le sujet, mais j'aimerais voir avec vous quelques clés et nous en parlerons tout à l'heure. Mais dans un premier temps, avant d'aller plus loin, puisque nous sommes dans une église, on va faire une lecture qui se trouve dans le Nouveau Testament, une lecture de la Bible. Dans la deuxième partie de la Bible, vous savez que celle-ci est divisée en deux grandes sections. Une première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est un gros pavé, intéressant, parfois dur aussi, en tout cas certains passages. Et puis une deuxième partie beaucoup plus accessible, le Nouveau Testament, qui nous relate l'histoire de Jésus, de l'église. Et nous allons lire un passage dans une épître ou une lettre qui a été écrite par un homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, dont vous avez certainement déjà entendu parler, il s'agit de l'apôtre Paul. Et voilà ce qu'il nous écrit dans cette lettre au chapitre 7. Alors écoutez bien, parce que la particularité de Paul, c'est que parfois il est assez compliqué. Et on est obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises dans certains de ses écrits, mais en même temps, ça nous donne un petit peu quelque chose à mâcher. Romains donc, au chapitre 7, les versets 14 à 25. « Nous savons, dit-il, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. » Je ne sais pas comment est-ce qu'un psychologue qualifierait cela. Verset 16. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, dit-il, mais le péché qui habite en moi. » Et il conclut son raisonnement ainsi. « Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Quelques mots d'explication sur notre passage, quelques mots aussi de lien avec notre thématique générale sur la question des dépendances. De quoi s'agit-il? De quoi l'apôtre Paul est-il en train de nous parler ici? Première chose que je note, c'est que nous avons ici un passage qui, tout au long de l'histoire, a dérangé bien des croyants et aussi bien des personnes qui s'intéressaient à la foi et qui se sont demandé, ben mince alors, de qui Paul est-il en train de parler ici? Est-ce qu'il est en train de parler de lui? Ou alors est-ce qu'il est en train de parler de quelqu'un d'autre? Parce que si Paul est en train de parler de lui, ça veut dire quoi? Notre bonhomme est chrétien. Qui plus est, c'est un prédicateur. C'est un homme qui écrit, c'est un homme qui encourage les autres dans la foi. Et donc s'il est en train de parler de lui, il est en train de parler d'un combat intérieur d'une rare intensité. Et bien des individus dans l'histoire de l'Église et aujourd'hui encore se sont dit « c'est pas possible que Paul parle de lui ». Par conséquent, il doit certainement parler de lui avant qu'il ne rencontre le Christ sur le chemin de Damas, ou alors il est en train de prendre ici un exemple d'un chrétien qui galère dans sa vie personnelle et qui est tiraillé. D'une part, il a envie de faire le bien, mais il constate qu'au fond de lui, il est poussé à faire le mal. De qui est-il question ici ? Est-ce qu'il est question de Paul ? Est-ce qu'il est question de quelqu'un d'autre ? Ou il est question de l'apôtre Paul avant qu'il ne rencontre le Christ sur le chemin de Damas ? Eh bien, personnellement, et je ne suis pas le seul à le penser, je crois qu'ici, Paul est en train de parler de lui. Et ce qui me fait dire cela, c'est tout simplement le temps du verbe ou des verbes qui sont utilisés. Tous les verbes dans son passage sont au présent. Paul dit « je fais », « je veux », « je ne veux pas », « je le veux pas », etc. Il parle de lui. Et moi, personnellement, je pense que Paul est en train de parler d'une expérience qu'il est en train de vivre. Il est en train de parler d'un conflit intérieur qu'il connaît. D'une part, il a à cœur de faire ce qui est bien, et il le fait, et en même temps, il constate aussi, peut-être dans son culte personnel, dans sa vie personnelle, individuelle, qu'il y a une autre loi qui combat dans ses membres, dans sa chair, et qui le pousse parfois à avoir de drôles de pensées, mais même à commettre des actes qu'il ne souhaiterait pas commettre, en tout cas au fond de lui-même. Et il parle ici quelque part de ce conflit dont il parle dans d'autres textes, par exemple dans l'Épître aux Galates, où il parle de ce conflit entre d'une part la chair et l'esprit. La chair ici faisant référence tout simplement au fait que normalement c'est ce qu'on ressent dans notre propre corps. Et puis l'esprit, c'est-à-dire le fait qu'il connaît le Christ personnellement et qu'il sent qu'il a en lui une autre puissance qui lui permet d'agir différemment. En tout cas, il est clair, il dira par exemple au verset 24 « Ce que je veux, je ne le fais pas, mais je hais ce que je fais ». Et il termine ainsi, on a un peu de la peine pour lui, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» Voyez-vous, quand je lis ce passage, quand je l'étudie aussi, moi je me reconnais là-dedans. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je me dis, n'est-ce pas là un combat que tout être humain connaît ? Que nous ayons la foi dans le Christ ou la foi dans quelqu'un d'autre, ou alors que nous ne sachions pas trop où nous en sommes personnellement, c'est quelque chose que nous vivons tous à certains degrés, au fond de nous-mêmes, et nous constatons qu'il y a en nous eh bien, une sorte de puissance qui est là, à l'état de latence peut-être, et parfois plus fort que cela, et qui nous pousse à commettre des actes par la suite dont on aura honte, à faire des choses, et on sait que par rapport à notre morale, et si nous sommes croyants par rapport à la morale de Dieu, nous savons que nous sommes en porte-à-faux. Et finalement, ce dont Paul est en train de parler ici, c'est ce dont il parle dans les chapitres précédents, et que je ne vais pas trop développer, mais ce dont il est en train de parler ici, c'est tout simplement de ce qu'il appelle la loi du péché. La loi du péché, c'est quoi ? Alors pour faire simple ou pour faire court, c'est ce principe, comme je le disais, qui nous pousse à commettre des actions, eh bien, si on est croyant ou si on ne l'est pas, qui sont en porte-à-faux avec la morale ou avec l'éthique que nous avons. C'est cette puissance que nous constatons dans nos membres, dans notre esprit, dans notre âme, qui nous pousse à commettre des actes. Et quand on se laisse entraîner par cela, on a du mal à résister. On a beau essayer de faire des efforts, mais parfois on va se dire « c'est plus fort que moi ». Combien de fois j'ai eu des personnes en entretien qui sont venues me voir et qui me disent « mais pasteur, c'est plus fort que moi ». Cette femme, je l'ai dans la peau. Ou alors ceci, je l'ai dans la peau et j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à m'en défaire. C'est comme si nous étions entraînés par une sorte d'engrenage. Il y a bien des années, je travaillais dans une imprimerie, et vous savez, dans les imprimeries, il y a de grosses rotatives qui vont entraîner le papier, et régulièrement, quand on a terminé un travail, il va falloir nettoyer la machine, et puis la préparer pour le prochain travail. Et là, c'est un moment toujours délicat, parce qu'on va passer le papier entre les cylindres, et dans tout un circuit qui est prévu, assez compliqué. Et quand on fait ça, eh bien, si vous travaillez en imprimerie, vous allez voir, il y a des stops partout. Partout, vous avez des boutons, vous pouvez appuyer, justement, parce que parfois, ça arrive que quand vous passez le papier, il y a des doigts qui manquent, ou le doigt risque de, ou la main risque d'être prise. Et si vous vous promenez un petit peu dans les imprimeries, en tout cas, c'était le cas il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que c'est davantage numérisé, vous voyez qu'il y a souvent des personnes à qui il manque des morceaux au niveau de la main, voire parfois un petit peu même plus. Et je me rappelle notamment d'une fois où nous étions en train de passer le papier, je travaillais d'équipe de nuit, et il y avait mon collègue, on était presque arrivé au bout, et tout d'un coup, il y a son index qui est pris dans la machine. Et heureusement que celui qui était à côté, il y en a, ça leur rappelle des souvenirs, j'ai l'impression, hein, et heureusement que celui qui était à côté a eu le réflexe d'appuyer sur le stop, c'est juste le bout de l'index, il a été cousu et il a pu garder son doigt. Il y a là quelque part une image, une belle image même, de ce que la Bible nomme le péché, tout simplement. Quand on commence à se laisser aller à ses sentiments, à ses actions, on sait pertinemment que ce n'est pas bon pour nous. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un engrenage, et ce n'est pas simplement la main qui va être prise, mais c'est le bras, et après c'est tout notre corps qui est entraîné. Et d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, le péché peut être comparé à une dépendance. Alors justement, parlons un petit peu de dépendance. Aujourd'hui, dans notre société, nous parlons beaucoup de dépendance ou d'addiction, ce qui est plus ou moins la même chose. Alors, qu'est-ce qu'une dépendance? De quoi s'agit-il? Une dépendance, c'est quelque chose dont on va se dire, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à me maîtriser. Je n'arrive pas à me contrôler. Des dépendances, je ne vais pas toutes les lister ce matin, vous en avez des centaines, pour ne pas dire des milliers. Tout, enfin presque tout, même des choses qui sont insignifiantes à la base, ou qui la Bible ne considère pas comme faute ou comme péché, peuvent malheureusement, si on en abuse, vous le savez, c'est le cas de l'alcool et d'autres choses, devenir tout d'un coup une dépendance. Que ce soit dans le cadre de la drogue, mais des aliments. Aujourd'hui, on parle de dépendance au smartphone, on parle de dépendance aussi par rapport à l'ordinateur, par rapport au jeu. J'ai un de mes amis qui aujourd'hui est pasteur, que j'avais rencontré il y a quelques années quand j'enseignais dans un institut biblique, et il m'avait accompagné un jour en Afrique, et puis il me raconte l'histoire suivante, et c'est avec son autorisation que j'en parle, et il me dit, bah, tu sais... Pendant des années, j'aimais bien jouer. Et il aimait bien jouer sur l'ordinateur, particulièrement en ligne. Et le soir, après le travail, lorsqu'il rentrait à la maison, il prenait du temps avec sa famille. Et puis après, à partir de 21h, pendant 2-3 heures, jusqu'à minuit, il allait jouer en ligne. Et avec le temps, eh bien, ça s'est transformé en une sorte d'addiction, de dépendance, puisqu'il jouait parfois pratiquement toute la nuit, ou jusqu'à 4h, 5h du matin, et ensuite, il se levait, il allait bosser. Et puis, il a commencé à vivre ça pendant des mois et des mois, il voyait pratiquement plus son épouse, il passait presque plus de temps avec ses enfants parce qu'il était complètement vanné, et à côté de cela, s'est greffé aussi une dépendance à la pornographie. Tout en étant croyant, et dans son fort intérieur, il aimait Dieu. Et à un moment donné, il s'est retrouvé un petit peu confronté à ce dont l'apôtre Paul est en train de parler ici, et il s'est dit, mais malheureux être que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Et il s'est demandé, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Dieu merci, il a trouvé du secours et il a pu s'en sortir. Mais tout cela pour dire que tout et n'importe quoi peut devenir très rapidement une dépendance. Il y a des choses qui d'emblée sont considérées ou que la Bible considère comme une faute, comme un péché, par rapport à la morale que Dieu nous a donnée et qui est universelle, mais il y a d'autres choses qui ne le sont pas, mais qui, lorsque ça commence à prendre le dessus dans notre vie, ça prend tellement d'importance dans notre existence qu'à un moment donné, on se retrouve complètement embêté et lié par ces choses-là. J'attire juste votre attention sur le fait qu'une dépendance, ça ne va pas se créer comme ça du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous dire aujourd'hui je vais être accro à la cocaïne, ou alors aujourd'hui je vais être accro au jeu, ou aujourd'hui je vais être accro au casino. Généralement, ça se manifeste de manière beaucoup plus subtile. une petite touche par-ci, une petite touche par-là, et un beau matin, on se réveille, comme c'était le cas de mon ami, et il se dit, mince alors, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Autrement dit, la personne se retrouve dans une dépendance, et la Bible en parle en des termes assez forts, qui pour nous sont parfois un petit peu rebutants aujourd'hui dans notre contexte au XXIe siècle, mais l'apôtre Paul dit, à partir du moment où quelque chose a triomphé de nous, nous sommes devenus esclaves. Or, dans plusieurs passages de la Bible, Paul dira par exemple, « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit ». Littéralement, le terme grec que Paul utilise ici signifie « Je ne me laisserai pas contrôler » ou « je ne serai pas sous le pouvoir de quelque chose ». Le seul, normalement, qui devrait triompher de nous, c'est le Christ. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est le Christ qui triomphe de nous, que se passe-t-il? Nous découvrons la vraie liberté. Nous sommes libres de l'aimer, nous sommes libres de ne pas l'aimer, nous sommes libres de pécher, nous sommes libres de ne pas pécher aussi. Et c'est ça la réelle liberté. Et si vous regardez bien dans nos vies, très rapidement, je le disais, on peut devenir dépendant de quelque chose, esclave de quelque chose. On n'y pense souvent pas parce qu'on est pris dans notre journée, on est pris par l'engrenage du travail, on est pris par la famille, on est pris par nos activités, mais de temps en temps ça fait du bien de se poser, de réfléchir et de se demander, de se poser la question, mais est-ce que je suis libre de ça ou de ça? Bon, notre patron ça va être difficile quoi, parce qu'on en a besoin, hein. Mais est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre de dire que cette semaine, pendant une semaine, je ne bois pas d'alcool par exemple? Est-ce que je suis libre de dire que pendant cette semaine, je ne vais pas boire 5 cafés par jour, mais je vais juste en boire 1 ou 2? Ce sont des petites choses là, enfin pour le café. Hein? Est-ce que je suis libre de dire que, eh bien voilà, mon sport favori que je pratique 10 heures par semaine et qui me fait tellement de bien et qui me procure tant d'adrénaline, est-ce que je suis libre de dire cette semaine, je ne ferai que 2 heures? Ou alors est-ce que je suis devenu accro à la chose? Vous me suivez? Si c'est pour moi un besoin ou une nécessité que je ne peux pas m'en passer, il y a quelque part une certaine forme d'addiction. Alors bien sûr, il y a des degrés d'addiction, mais il y a une certaine forme de dépendance, d'addiction qui est en train de se créer. Et parfois ça fait du bien dans nos vies, et moi souvent je me pose la question, est-ce que tu es libre cette semaine ou dans le mois qui suit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça? Est-ce que tu es libre par rapport à ça? Et je dois vous avouer que parfois c'est un petit peu difficile. Et je me rends compte que je suis obligé de lutter, de combattre. Or, Dieu veut que nous soyons libres, libres de toute chose. Alors j'aimerais tout doucement terminer, ou plutôt voir d'abord dans un premier temps, quelles sont les ressources que Dieu met à notre disposition pour nous aider et nous permettre de vivre de belles ou de nouvelles victoires. J'en ai listé 15. Non, 3, pardon. 3 ressources, qu'est-ce que je dis? Il y en a qui ont eu peur, là. Ils se sont dit, c'est parti jusqu'à 1 heure. Il y en a plus d'habitude, j'en ai enlevé une là tout à l'heure, pour faire un petit peu plus court. Quelles sont les ressources que Dieu met à notre disposition pour nous permettre d'être victorieux? La liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. Ce sont là quelques pensées, quelques points, tirés d'écriture, tirés de mon expérience aussi. Première ressource que je vous propose, stop. Admettre et arrêter. Tout simple, tout bête, tellement simple que parfois on n'y pense pas. Vous avez peut-être travaillé parmi les alcooliques anonymes ou d'autres personnes qui vivent des dépendances et vous savez qu'une des premières choses qu'on va leur dire, c'est si tu veux t'en sortir, tu dois avoir le désir. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent en entretien, et ça sent à 10 mètres qu'elles sont imbibées d'alcool, elles viennent me voir et me disent « Ah, mais moi j'ai pas de problème avec l'alcool ». Ben, je vous ai pas posé la question, pourquoi vous m'en parlez? Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a un problème, tant qu'on est dans la justification ou l'auto-justification, ça va être compliqué. C'est même compliqué pour Dieu. non pas dans le sens que Dieu ne peut rien faire pour nous, mais Dieu est très respectueux de notre liberté, et par conséquent, il n'intervient pas si on ne lui donne pas la possibilité, eh bien, de venir, de faire appel à lui. Première des choses, admettre, arrêter, reconnaître que nous avons un problème. C'est ce que la Bible appelle tout simplement, en ces termes, la repentance. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Notez ces deux choses. « Celui qui les reconnaît et celui aussi qui les abandonne. » Autrement dit, celui qui a le désir de changer et d'être différent par la suite. Alors concrètement, admettre et arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. D'abord, ça veut dire que nous arrêtons de jouer avec ce qui nous blesse ou ce qui nous fait mal. Autrement dit, nous décidons que maintenant, c'est tolérance zéro. Ce n'est pas évident, c'est même très difficile. Je vous donne un exemple. Il y a 5 semaines de ça, j'étais en Suisse, à Romont. J'ai logé chez un ancien toxicomane, un homme qui a vécu une vie comme j'ai rarement entendu et qui, miraculeusement, grâce à Dieu, s'en est sorti, c'est un rescapé. Et je lui ai posé la question, voilà, tu es dans la foi maintenant depuis 15 ans, est-ce que tu as eu des rechutes? Et il me dit, oui, j'ai eu quelques rechutes au début, même pendant les premières années. Et ensuite il me dit, mais maintenant ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de rechute, autrement dit que je ne suis pas retombé dans cette dépendance qui pour lui était immense. Et je lui pose la question et je lui demande, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Quelle a été la clé pour toi? Et il m'a dit simplement, j'ai appliqué dans ma vie personnelle le principe de tolérance zéro. C'est-à-dire, c'est terminé, plus rien. On arrête tout, on arrête les frais. Et il me dit, en appliquant ce principe, avec le secours de Dieu, jusqu'à présent, j'ai réussi et je ne suis pas retombé là-dedans. Deuxième chose, se laisser toucher par la bonté de Dieu. Et se rappeler que même si nous sommes à côté de nos pompes, même si nous sommes pris dans des addictions, que nous ayons la foi ou que nous n'ayons pas la foi, Dieu n'est pas forcément en colère contre nous. Dieu reste bon et Dieu est capable d'intervenir dans notre vie. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, c'est Paul qui écrit et qui dit ceci, que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Moi, j'aime bien cette parole. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Autrement dit, c'est quand on réalise combien Dieu est bon que tout d'un coup, on va avoir envie de changer. Je découvre dans la Bible qui est Dieu et en découvrant qu'il est tellement bon, qu'il est tellement généreux, qu'il est tellement grand, tout d'un coup, je me sens tout sale à l'intérieur de moi-même. Et je me dis, mais mince alors, je ne savais pas qu'il était comme ça. Et ça me donne envie de changer. Un exemple. Un jour, j'étais en Lorraine. Je pars dimanche après-midi, après avoir mangé chez un des leaders de l'église, un jeune couple. Le monsieur m'accompagne à la voiture. Et alors que je m'apprête à prendre le volant, j'avais déjà mon esprit dans la voiture et presque à la maison, je vois qu'il a envie de parler, il s'ouvre à moi et puis il me parle d'un problème personnel et il me raconte que ça fait des années qu'il est pris au travail, des heures et des heures par la pornographie. Non seulement il ne fait pas son boulot, mais en plus il est pris par des trucs qui sont en train de manger, de ronger sa vie et il n'arrive pas à s'en sortir. Et à la maison, il a décidé de ne pas avoir d'ordinateur pour que ça ne continue pas là et que ça ne soit pas l'enfer, non seulement au boulot, mais là aussi. Et il me parle de ça juste avant de partir. Et moi, je me dis, mais mince, alors qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne vais pas lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Il le sait très bien. Il est triste, il est malheureux de cette situation. Et dans mon esprit, je prie à l'intérieur de moi et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois dire à cet homme? Et tout d'un coup, la pensée me vient à l'esprit et je lui dis, écoute, quand tu es devant ton écran d'ordinateur à regarder n'importe quoi, eh bien moi j'aimerais te dire, Dieu est là, non seulement il te voit, mais tu continues d'être un enfant de Dieu, un enfant bien-aimé de Dieu, et Dieu continue de t'aimer. Il n'est pas d'accord avec ce que tu fais, ça tu le sais, mais son amour pour toi n'a pas changé. Son amour pour toi n'est pas plus fort ou moins fort que quelqu'un qui file droit, j'allais dire. Il est exactement le même. Et je suis parti et j'ai juste prié rapidement avec lui. 2 mois après, peut-être, je téléphone ou il m'appelle, je ne sais plus comment, dans quel ordre c'était. Et il me dit, écoute, c'est extraordinaire, je suis en période de sevrage. Et je vis dans ma vie là une période que je n'ai jamais vécue auparavant, je n'ai jamais réussi à vivre une abstinence aussi longue. Et ce qui l'a interpellé, ce qui l'a touché spirituellement, c'est de découvrir que malgré ce qu'il faisait, Dieu continuait de l'aimer. L'amour de Dieu ne change pas. Quelle que soit notre situation, quelles que soient les fautes, quel que soit là où nous en sommes, Dieu nous aime, point. Il n'y a rien à discuter. Ça fait partie de sa nature. De la même manière que vous êtes parents, vous avez eu des parents, les parents aiment normalement inconditionnellement leurs enfants. En tout cas, ils essayent de le manifester, quelles que soient les erreurs que les enfants vont faire ou non. Et puis troisièmement, eh bien, admettre et arrêter, ça veut dire aussi qu'on décide d'affronter la racine de nos dépendances. Parfois, c'est bien de s'arrêter puis de faire un petit travail sur soi-même, surtout lorsqu'il s'agit de choses récurrentes. J'ai un de mes amis qui travaille dans l'accompagnement pastoral et spirituel et qui accompagne bien des individus dans la région de Strasbourg. Et un jour, je lui pose la question justement par rapport aux dépendances. Et il me dit, tu sais, à la base de toutes les dépendances, il y a souvent une perte. La perte d'un conjoint, la perte d'un travail, un événement douloureux, une séparation, un divorce, quelque chose de difficile qui a été vécu dans l'enfance, dans l'adolescence ou dans notre vie d'adulte. Il y a une perte qui est là et cette perte est parfois tellement importante et tellement déstabilisante qu'il y a un mécanisme qui va se mettre en nous qu'on ne maîtrise même pas et dont on n'a pas conscience et on va se dire, on va essayer de compenser par quelque chose qui nous donne ou qui nous fait plaisir, tout simplement. Et donc, parfois, ça fait du bien de prendre du temps, de prier, de se laisser conseiller, accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, pour justement, pas simplement rester à la surface, mais affronter ce qu'il y a au fond de nous. Sachant que Dieu est capable de nous rejoindre dans nos dysfonctionnements et dans nos profondeurs. Et combien de personnes dans les églises et parfois ailleurs vivent des situations qui sont difficiles ? Quand on est comme ça devant les autres, tout semble bien aller, mais quand on est confronté, quand on discute avec les gens, vous voyez que parfois c'est tellement difficile. Mais Dieu est capable de nous rejoindre là où nous en sommes. Un jour, je me trouvais dans les Antilles et j'avais une chorale gospel composée de jeunes qui venaient de différentes églises qui m'accompagnaient pendant toute une semaine. Chaque soir, j'annonçais l'évangile et puis eux, ils chantaient. C'était merveilleux, vous en doutez, des Antillais, ça bougeait dans tous les sens. Et puis, à partir du 3e ou 4e soir, tout d'un coup, je commence à voir certains jeunes de cette chorale qui viennent en entretien. Et notamment, j'en ai eu 2 qui m'ont confié, et je ne dirai pas de quoi, il s'agit des combats immenses qu'ils vivaient, tellement grands. Je ne m'imaginais pas que cet homme et que cette femme vivaient des combats et avaient une dépendance telle dans leur vie. Et je leur pose la question, je leur dis, mais ils ont prié pour cela, mais ils avaient besoin d'aller en profondeur. Et je leur ai demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre église ou votre union d'église à qui vous pouvez vous ouvrir de ce que vous vivez ? Et ils m'ont dit, nous ne pouvons rien dire dans notre église. Parce que dans notre église, on est tellement légaliste, on est tellement dur, on est tellement à cheval sur la loi, que si quelqu'un sait le combat, le péché dans lequel je suis, immédiatement, ils vont me mettre en quarantaine. Et tout le monde va savoir qu'il y a un problème, et tout le monde va commencer à demander ce qui se passe, et à un moment donné, ça va sortir. Ce qui fait que ces 2 jeunes restaient complètement bloqués avec leur dépendance. Alors Dieu merci, j'ai pu leur apporter 2-3 paroles, prier pour eux, les remettre à Dieu, et je me suis demandé comment ils allaient faire pour s'en sortir. 2 ans après, je suis de nouveau invité dans les Antilles, et tous les deux s'étaient sortis de cette grosse dépendance, de ce gros truc qui était là et qui plombait toute leur vie. Mais le fait d'affronter la racine de nos problèmes en pouvant parler avec quelqu'un, eh bien ça aide considérablement. Et parfois on a du mal à faire ça dans nos églises, on a du mal parce qu'on pense qu'à partir du moment où on est chrétien, voilà, bien sûr tout est pardonné et on pense que maintenant tout est terminé, tout va bien se passer, etc. Et on se dit c'est pas normal que j'ai ces pensées, c'est pas normal que je sois retombé dans telle addiction, dans tel péché. Eh bien, nous restons des êtres humains, fragiles. Et si justement le fait de pouvoir en parler à quelqu'un, de pouvoir s'ouvrir de ce que nous vivons, de pouvoir prier les uns pour les autres, qui nous permet aussi d'être guéris. Donc première étape, admettre en disant voilà, on va être ferme dans notre vie, tolérance zéro, même s'il peut y avoir des rechutes, on se laisse toucher par la bonté de Dieu et on décide aussi avec le secours d'autres personnes d'affronter la racine de nos dépendances. Deuxième étape, que je vais résumer, faites confiance à Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, le Christ dira lui-même, enfin dira ceci de lui-même plutôt, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu se sert d'autres personnes, et c'est merveilleux. Merci. Mais celui qui en définitive a la capacité de nous aider et de venir à notre secours, c'est le Christ. C'est le Fils du Dieu vivant. Lisez, relisez les évangiles. Jésus venait au secours des démonisés. Jésus venait au secours des malades. Jésus venait au secours de personnes qui ployaient sous la culpabilité. Jésus venait au secours auprès de personnes qui étaient dans le chagrin et autres. Jésus venait au secours de celui ou de celle qui était prise par toutes sortes de dépendances. Et en définitive, celui qui a vraiment la possibilité de nous aider, c'est Jésus. Que se passe-t-il? À partir du moment où nous disons oui à Jésus, c'est-à-dire, c'est ce que la Bible appelle la conversion, c'est-à-dire on se repent de ses fautes et on décide de croire dans le Christ, c'est-à-dire d'en faire le numéro un de notre vie. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire cela il y a 24 ou 25 ans, je ne sais même plus maintenant. C'était il y a bien longtemps. J'ai décidé, oui, je crois en toi, je suis convaincu que tu es le Fils de Dieu et que tu as le pouvoir de changer ma vie et de m'aider. Que se passe-t-il? Eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité de dire non. Nous avons la possibilité de dire non. Non à quoi? Non à nos addictions et non au péché aussi qui se présente à nous. Vous me suivez? Un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez saint Augustin, probablement, un des pères de l'Église, comme on l'appelle, un homme qui a marqué considérablement le christianisme. Et on raconte l'histoire suivante par rapport à Augustin, je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai entendue à plusieurs reprises. On raconte l'histoire suivante. Avant sa conversion, Augustin était un homme à femme. Il en avait un petit peu partout. Et quand il s'est converti, et ça ressort de manière très nette de ses écrits, le gars, il a dit maintenant c'est tolérance zéro. On arrête les conneries. Langage d'aujourd'hui. Voilà qu'un jour, notre homme se retrouve, je ne sais plus dans quelle ville, en train de vaquer à ses occupations, et là il croise une de ses anciennes maîtresses, qui le salue, il se salue, etc. Et cette maîtresse profite de l'endroit pour lui rappeler tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, notamment tout près d'ici où ils se voyaient de temps en temps. Et elle lui rappelle ça, et puis Augustin, bon, ne s'étend absolument pas dessus, il la salue et il continue son chemin. Et vraisemblablement, alors qu'il est en train de partir, son ancienne maîtresse, elle aussi, part et n'est pas contente. N'est pas contente de la réaction d'Augustin. Et surtout, n'est pas contente parce qu'elle aurait bien voulu passer un moment avec lui. Et à un moment donné, en pleine rue, elle l'apostrophe, elle lui dit « Mais Augustin, c'est moi !» Et Augustin se retournera et la regardera et lui dira « Ce n'est plus moi. » C'est pas mal ça. « Ce n'est plus moi. » Physiquement, c'était toujours le même. Intellectuellement, c'était toujours le même. Son langage, certainement, son phrasé devait être le même, son sourire était le même. Mais intérieurement, Augustin avait rencontré Jésus. Jésus avait pardonné ses fautes et c'était une nouvelle vie qui commençait pour lui. Peut-être était-il encore intéressé par cette femme. Peut-être éprouvait-il un certain attrait, je n'en sais rien. Mais grâce au Christ, il avait désormais ce pouvoir de dire, eh bien maintenant, non. Ce n'est plus moi. Autrement dit, ce que tu me proposes ne correspond plus à mon nouveau système de valeurs, à mes nouvelles croyances que le Christ m'a données. Vous me suivez? Et moi, je trouve beau Je trouve beau parce que dans la foi chrétienne, nous avons la possibilité de dire oui, je peux pécher, je peux désobéir, je peux être pris par une addiction, mais j'ai le pouvoir aussi de dire non. Je ne suis pas obligé de faire tout ce qui se passe dans mes pensées. Je ne suis pas obligé de laisser les pensées s'installer en moi. C'est le réformateur Martin Luther qui dira qu'une pensée, ça vient, ça passe. Parfois, on a des drôles de pensées. Moi, j'ai des drôles de trucs parfois dans l'esprit. Hein. Si vous pouviez lire dans mes pensées, vous dites, c'est pas possible, quoi. Le gars, il est pasteur, il pense des trucs comme ça. Alors, parfois, ça m'arrive. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai des drôles ou des mauvaises pensées qui viennent? J'ai la possibilité de les canaliser, de les prendre et de les jeter, tout simplement. J'ai la possibilité de dire non. Et moi, j'aime ça. Je termine avec le dernier point. C'est le troisième, normalement. Apprendre à nous voir ou à nous considérer comme Dieu nous voit. Question. Comment est-ce que, ou quel regard plutôt portons-nous sur nous-mêmes? Comment est-ce que nous nous voyons? Comment est-ce que nous nous percevons? Je ne parle pas simplement physiquement, mais je parle à l'intérieur de nous-mêmes. Le regard que nous avons sur nous-mêmes est très important. Parce que le regard que nous avons sur nous-mêmes nous permet de faire face aussi aux tentations, aux addictions, aux péchés lorsqu'ils se présentent à nous. Je vous invite à regarder une courte vidéo, elle est en anglais mais elle a été traduite en français. Et donc c'est une vidéo qui nous montre un petit peu, ou plutôt c'est un homme qui a travaillé pour la CIA, qui a fait des portraits robots pendant plusieurs années, et qui va dessiner des personnes qui sont là tout simplement, et qui suite à cela, voilà, il y a un portrait qui va apparaître. Regardez, c'est très intéressant. Comment je me vois, comment les autres me voient, et puis surtout la question importante que je vous laisse, comment est-ce que Dieu me voit? Nous, on a tendance à se voir ou se considérer en fonction de notre passé, des échecs que nous avons vécus, des échecs que nous vivons, de ce divorce que nous avons connu, de cet enfant que nous avons abandonné, de ce travail que nous avons laissé passer, de ces paroles malencontreuses que nous avons dites et qui ont eu des répercussions dans la vie de nos proches. Et si on laisse ces choses-là, voilà, nous envahir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça nous pourrit, ça pourrit notre existence. Combien de gens sont prisonniers de leur passé? Combien de personnes ne s'en sortent pas ou reviennent sur ces anciennes fautes, ces addictions qui étaient là dans leur vie? C'est important, lorsqu'on découvre la foi et lorsqu'on chemine avec le Christ, d'apprendre à nous regarder comme Dieu nous voit. Et Dieu, il nous voit comment? Dieu, il nous voit au travers de Jésus. Et quand il nous regarde au travers de Jésus, au travers de la croix, au travers de la croix où le Christ a donné sa vie pour nous sauver, Dieu a un regard positif sur nous. Dieu est 100% pour nous. Moi, j'aime bien dire cela. Et je crois qu'on a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Dieu a donné son Fils pour nous, pour mourir pour nos péchés à la croix. Pensez-vous que le Dieu qui a envoyé son Fils, qui a tout donné, à un moment donné, va nous regarder d'un œil de travers et dit « je ne suis pas pour toi ou je ne suis pas pour vous », mais c'est impensable. Quel père ou quelle mère agirait ainsi à l'égard de ses enfants? Si nous savons aimer nos enfants, si nous savons leur donner des bonnes choses, même si parfois on se comporte mal, à combien plus forte raison Dieu qui est 100% bon, en qui il n'y a aucune once, il n'y a rien de mal en lui, ce n'est pas possible, sinon il n'est plus Dieu. À combien plus forte raison Dieu nous regarde d'un œil positif? Et Dieu nous regarde au travers de Jésus. Et il voit en nous tout le potentiel qui est là, toutes les capacités qu'il nous a données. Il tire un trait sur notre passé. Il tire un trait sur les fautes que nous avons commises. Si vous êtes tombé dans une addiction cette semaine ou dans des fautes, etc., eh bien, si vous vous êtes repenti de cela et vous avez pris la décision que maintenant ça sera tolérance zéro, eh bien, Dieu est pour vous et Dieu vous accompagne dans ce cheminement. Et il a un regard positif et il ne reviendra jamais sur une faute qui a été confessée. Dieu ne nous rappelle jamais notre passé. Il ne nous rappelle jamais nos erreurs. Dieu n'agit pas ainsi à notre égard. Et je crois que nous devons changer parfois notre image de Dieu et nous dire que Dieu est pour nous, 100% pour nous et qu'il nous regarde au travers de Jésus. Et quand il nous regarde au travers de Jésus, il nous voit saints. C'est-à-dire qu'il nous voit propres, il nous voit clean, il nous voit bien. Il sait très bien de quoi nous sommes composés. Il sait très bien qu'on risque et que parfois nous prenons des chemins de travers, mais même lorsque nous prenons des chemins de travers, même lorsque nous retombons dans certaines dépendances, il reste toujours 100% pour nous. Et c'est justement parce qu'il est 100% pour nous que nous pouvons et que nous avons cette possibilité de changer. Amen. Je vous redonne simplement ces trois clés pour nous aider. Que ce soit dans la lutte contre le péché ou que ce soit par rapport à une dépendance que nous considérions petite ou grande dans notre vie, eh bien, admettre et arrêter. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Se rappeler que le Christ, lorsque nous faisons appel à lui, a toute la puissance pour nous aider. Et que Jésus peut intervenir là où des psychologues ne peuvent pas intervenir. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas utiles, ils sont très utiles. Mais ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir une action thérapeutique en profondeur sur nous, alors que Jésus, puisqu'il est fils de Dieu, a cette capacité. Et puis aussi, peut-être que quelqu'un ce matin a besoin d'entendre comment est-ce que Dieu te voit. Apprendre non plus à vous regarder en fonction de ce qu'on a dit de vous, des paroles blessantes peut-être qui ont été prononcées sur vous, que vous-même vous avez dit sur votre propre vie, mais apprendre à dire non, Dieu est 100% pour moi, il me voit au travers de Jésus, je peux relever la tête et je peux être heureux et fier, parce que grâce à lui, je peux m'en sortir et avancer. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu es bon et tu es meilleur que ce que nous pouvons dire de toi, parce que les mots nous manquent et que nous-mêmes, nous ne sommes pas 100% bons. Et nous voulons te remercier parce que ta bonté et ton amour nous confond. Nous confond dans ce que nous sommes, alors que parfois on se sent si petit, si insignifiant, en train de se culpabiliser pour ses addictions, pour ses péchés dans lesquels on retombe, ses travers aussi dans lesquels nous retombons, et parfois nous désespérons de nous-mêmes. Et moi j'aimerais te remercier parce que même quand nous sommes, et surtout quand nous sommes dans ces moments-là, eh bien ton regard est sur nous, et tu nous manifestes ta bonté, et tu nous dis « tu es mon enfant chéri, tu es mon enfant pour qui j'ai donné mon fils ». Pour lequel je suis allé jusqu'à la croix. Et aujourd'hui tu es saint, aujourd'hui tu es propre, aujourd'hui tu n'as plus à te considérer comme tu te considérais. Et je vous laisse encore cette parole de l'Écriture ce matin, ne considérez plus les choses anciennes, ne considérez plus ces choses anciennes, voici je fais une chose nouvelle. Seigneur, merci parce que tu fais une chose nouvelle dans nos vies. Et cette chose nouvelle, tu ne la fais pas simplement le jour où nous disons oui à toi, nous te disons oui, mais cette chose nouvelle, tu la fais chaque matin, chaque jour, chaque après-midi, chaque moment où nous nous tournons vers toi. Tu crées quelque chose de nouveau en nous. Et j'aimerais te prier que tu crées ce matin quelque chose de nouveau dans le cœur de celles et ceux qui sont là. Je prie que tu te révèles à eux, que tu leur manifestes ta bonté. Que celui ou celle qui se débat contre une addiction, qui ne s'en sort pas, eh bien, reçoive de toi le secours nécessaire. Qu'il s'ouvre peut-être à quelqu'un pour en parler, ou qu'il te prie simplement et qu'il te demande, eh bien, fils de David, aie pitié de moi, viens me secourir. Ou que quelqu'un simplement apprenne maintenant à se regarder comme tu regardes ou comme tu considères cette personne et tout être humain sur cette terre. Seigneur, merci parce que tu es pour nous, parce que tu n'es pas contre nous. Nous voulons te remercier parce que tu nous aimes et que ton amour pour nous est sincère, profond et réel et que grâce à toi, nous avons la possibilité de changer et d'évoluer. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte. Vous allez découvrir les annonces et la suite dans quelques instants. Si vous le souhaitez, je suis disponible à la fin de ce culte. vous pouvez venir me voir, soit parce que vous auriez une question, soit parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ou alors parce que vous aimeriez justement me confier quelque chose qui est lourd, qui est douloureux pour vous. Vous avez la possibilité de le faire en toute confidentialité. Et si vous le souhaitez, eh bien, je pourrai prier pour vous. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse.
Merci à chacun pour ce qu'on a reçu ce matin. Emmanuel est venu aussi avec des livres qui sont à disposition et qui sont donc sur une table au fond de ce côté-ci. Voilà. Je partage avec vous le programme de la semaine que vous pouvez découvrir aussi sur l'écran. Donc demain, il y a le Femme Club, un Femme Club particulier puisque c'est un Femme Club ouvert, non seulement ouvert aux dames qui n'ont pas l'habitude d'y participer, mais ouvert aussi aux messieurs. Pour le coup, c'est peut-être plus vraiment un Femme Club. Donc c'est donc demain après-midi, ici, et donc sur le thème les dons naturels et les dons spirituels. Mardi, donc, nous avons les cellules. À Gex, on se retrouve chez Jean-Paul et Lydie, Collonges, Farges, Perron, chez Raymond et Pascal, c'est juste. Et puis, pour Prévesin, chez Emmanuel et Rebecca. Vous avez vu qu'il y a deux rencontres, deux répétitions de chorale cette semaine. C'est pour préparer le concert qu'on vous offre dimanche prochain, puisque c'est le week-end de la fête de la musique. On vous offre un concert ici, dans cette salle, à 17h30, donc dimanche 18 à 17h30. Voilà, donc il y a encore quelques flyers au fond de la salle. N'hésitez pas, prenez-les, c'est important de les distribuer. Et n'hésitez pas, vos voisins, vos amis, vos connaissances. Le but est de partager ce qu'on vous offre en fait, ce qu'on vous propose au niveau de ce concert. Dimanche prochain, à 12h, on aura aussi le dépouillement du vote pour le renouvellement du conseil. Des nouvelles des uns et des autres. Pensons tout particulièrement à Anne-Lise. Anne-Lise est dans un désarroi, elle ne va pas très bien. Suite au dernier scanner, les médecins ont vu que l'os de sa jambe était touché, et ce n'est pas simple. Ils évoquent de nouveau la possibilité de couper la jambe. Voilà, donc pensons vraiment à Anne-Lise, prions pour elle. J'ai mis sur le site son numéro de téléphone direct, donc elle est toujours à Beau Séjour. Elle a besoin d'encouragement, besoin aussi de contact. N'hésitez pas aussi à la visiter et vraiment à penser à elle. Didier est parmi nous ce matin. Il me disait qu'il va mieux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. On continue de penser à vous, de prier pour vous. On continue de penser aussi à Jacques Cuypers, donc qui a chuté cette semaine. Et donc, il a été quelques jours en observation. Heureusement, rien de cassé, rien de grave, juste une attelle au genou. Et vraiment, continuons de penser à Jacques et Guylaine. Voilà, s'il n'y a pas d'autres annonces, oui.
Juste concernant le club d'été, oui. Samedi prochain à 17h, on vous propose de venir ici. On fait une distribution de tous les flyers qui restent.
D'accord, oui. Voilà, donc samedi prochain à 17h, avec le Femme Club. Non, c'est pas le Femme Club, c'est tous ceux qui veulent. Voilà, qui propose et qui invite chacun à participer à une distribution des flyers qui nous restent pour le concert de dimanche prochain. Non, ah non, pour le club d'été. Ouf, désolé. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets. Oui.
Oui. C'est dimanche prochain, le dernier dimanche.
Voilà. Oui.
Un dépouillement après le culte. Donc vous avez jusqu'à dimanche prochain avant le culte pour ramener vos bulletins de vote. Donc c'est important. C'est
merci.
C'est
oui.
Le cœur
de la vie d'église. Oui. Merci. Merci. Je vous lis donc deux versets dans deux Thessaloniciens qui sont aussi de l'apôtre Paul. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment avec vous tous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.